France Culture.
আমরা জয়ী হব বিশ্বকে দেখিয়ে দেব আমাদের প্রতিটি মান দেশের সবার সম্মান ধরব সবার হাত যত বাধাই আসু We will win.
Nous gagnerons.
We will show the world our values.
Nous montrerons au monde ce que nous valons. Nous gagnerons le respect de tout le monde dans notre pays, quels que soient les obstacles que nous rencontrerons sur notre chemin.
Je m'appelle Nigjar Azmari. Je viens du Bangladesh. Je suis chanteuse professionnelle. En même temps, maintenant, je travaille en tant qu'interprète. Bengali, anglais, hindi et urdu. When I came here,
Quand je suis arrivée ici, j'ai écrit cette chanson sur l'exil. Dans mon pays, je suis une chanteuse très connue. J'ai travaillé pour les réfugiés Rohingyas qui fuient la Birmanie. Dans mon pays, il y a beaucoup de fondamentalistes et ils m'ont dit que si je continuais à aider ces réfugiés Rohingyas, et en particulier les hommes et les femmes qui ne sont pas musulmans, ils se mettraient en travers de mon chemin et c'est la raison pour laquelle on m'a conseillé en 2015 de quitter mon pays.
You can leave this country because it's not good for your future. So that's why I leave my country.
Nouvelle diaspora de France, troisième épisode. Bangladesh, une communauté invisible, un documentaire de Raphaël Kraft et Jean-Philippe Navarre.
Lot of people
Beaucoup de personnes m'ont conseillé d'aller en France, où on m'a dit que mes droits seraient garantis et où je pourrais continuer à jouer ma musique et faire tout ce qui me plaît sans fondamentaliste pour m'en empêcher. D'autant que j'aime la France. Quand j'étais petite, c'était mon rêve de venir ici. Je suis d'abord venue en 2005 pour un concert, et puis je suis revenue en 2015 pour demander l'asile. Aujourd'hui, je suis heureuse de vivre en France.
Je m'appelle Ahmed Rafi, je suis Bangladais, je suis 32 ans et je suis en France, ça fait 4 ans. J'ai demandé asile et je travaille dans un restaurant à Montparnasse comme barman. Et voilà, c'est moi. Et j'habite avec mon oncle, il est mon ami aussi, dans un appartement, deux chambres, on est trois, on partage les loyers.
Rafi Ahmed, vous êtes Bangladais, vous êtes arrivé en France en 2021. Qu'est-ce qui a motivé votre départ du Bangladesh ?
J'avais un problème. J'ai commencé avec mon père, on a un problème avec la politique. Et à cause de ça, j'ai été victime. Et à la fin, je n'avais pas le choix que de quitter mon pays. Et je suis venu à d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne. Mais les gens qui habitent là, de Bangladesh, ils m'ont conseillé à venir en France, partir en France et demander asile ici parce que c'est pas plus facile, mais la France qui a été connue pour les droits de l'homme, si je viens ici expliquer ma situation à la gouvernement, si elle m'en croit, elle pourrait me donner la décision en ma faveur de résider ici.
C'était quoi ces problèmes politiques?
Mon père était un homme politique et il a toujours supporté le parti BNP. À cause de ça, je n'ai pas fait de la politique et j'ai joué toujours cricket, j'étais un sportman. Sa problème est devenu mon problème à la fin. On avait beaucoup de problèmes avec le maire de notre localité et le leader de Army League. Et j'étais la victime de ça.
Comment avez-vous fait pour quitter le Bangladesh?
J'ai parti au Inde et de Inde, j'ai pris l'avion jusqu'à Qatar. Et après Qatar, il y a de plusieurs routes, taxi, bus, il y a train, on avait deux gens qu'on a marché aussi.
Je m'appelle Jérémy Caudron, j'ai enseigné pendant une quinzaine d'années à l'INALCO, donc je suis un professeur de Bengali à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales à Paris. Depuis une dizaine d'années, je suis prof de français langue étrangère dans une association à Aubervilliers. Les gens se retrouvaient souvent en premier lieu à Dubaï ou dans les Émirats, et puis ensuite passer par la Libye pour se rendre en Italie. Énormément d'entre eux ont dû rebrousser chemin. Il y a même eu des comités au Bangladesh qui se sont créés pour décourager les gens d'essayer de fermer, en tout cas symboliquement, cette route qui était de plus en plus dangereuse. On a eu plusieurs Bangladais qui sont morts en mer.
Plusieurs dizaines de milliers de Bangladais qui vivaient en Libye ont traversé la Méditerranée. L'Angleterre a fermé sa frontière et c'est la raison pour laquelle ils arrivent en France après avoir élu l'Italie notamment, où on compte la plus grande communauté bangladaise continentale en Europe.
Je dirais qu'aujourd'hui, on peut estimer une population qui grandit de entre 3 et 6 000 nouvelles demandes d'asile par an. On peut les estimer parce que c'est l'OFPRA qui donne des chiffres sur les demandes d'asile. C'est la deuxième population qui demandait l'asile début des années 2020, en France en tout cas.
Vous êtes passé par le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie, la Turquie.
Turquie, Grèce, Italie, après ici. Je ne peux pas le rappeler, c'était une histoire bizarre et difficile, je n'avais pas le choix. Je suis venu au taxi de là ici directement à Gare du Nord.
Donc je suis Raphaël Gras. Je propose des parcours à Paris et à la Courneuve, tous en lien avec des histoires qui nous ramènent en Asie du Sud, sous-continent indien, Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Et on va en fait marcher un petit peu entre la gare de l'Est et la gare du Nord. Et c'est donc entre ces deux gares que s'est installée donc depuis quelques années cette présence de personnes originaires du Bangladesh.
On y va ?
Allons-y. Toute la portion de rue entre la gare de l'Est et la gare du Nord, et quasiment maintenant avec uniquement des commerces tenus par des gens du Bangladesh.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à l'Asie du Sud ?
Quand j'avais 20 ans, je suis partie avec mon sac à dos en Inde, puis j'y suis retournée. Et puis ce qui m'a surtout intéressée, c'est de comprendre et de mieux connaître cette présence que l'on a la chance d'avoir, notamment dans la rue du Faubourg Saint-Denis, en fait. Moi, j'ai beaucoup de gens dans mes balades qui viennent et qui me disent oh, « ben, j'habite dans le quartier » ou « je connais très très bien le quartier ». Et puis qui, à la fin de la balade, me disent « Quoi ? Mais il y avait des gens originaires du Bangladesh ? Et il y avait aussi une histoire pakistanaise dans cette rue, etc. » Donc ils découvrent aussi, finalement, toute la diversité de cette population.
Je travaillais sur les migrations climatiques au Bangladesh, dans un projet de recherche en santé publique. Et à l'aéroport de Dhaka, lors de ma première mission, j'ai rencontré un ressortissant bangladais qui m'a dit qu'il habitait à Pantin, très près de mon domicile. J'ai réalisé à ce moment-là qu'il y avait une communauté dans mon quartier de ressortissants bangladais assez importante. Des commerces, des salons de coiffure, des restaurants. Et j'ai aussi appris que mes voisins du rez-de-chaussée, que je croisais depuis plusieurs années et qui m'apparaissaient d'origine sud-asiatique, étaient en réalité des ressortissants bangladais. Et de là est parti un questionnement sur d'où vient ce manque de perception de cette immigration bangladaise. Et de là est parti ce projet de recherche doctorale. Je m'appelle Sophia Meister et je travaille sur l'invisibilité sociale de la diaspora bangladaise en région parisienne. J'ai essayé de montrer qu'il y avait plusieurs logiques d'invisibilisation sociale. Une méconnaissance historique des migrations bangladaises en Europe. Parce qu'en fait, les migrations bangladaises, elle remonte au 19e siècle à destination surtout du Royaume-Uni. Donc les premières routes migratoires, elles se sont formées à travers le recrutement de matelots du nord-est du Bangladesh, de la région de Sylhet, qui était un comptoir régional britannique. Donc c'est des matelots qu'on appelait les Lascars, qui s'occupaient des chaudières en soute, des navires de l'East India Company. Et ils accostaient souvent à Londres, certains accostaient dans des ports français, La Rochelle, Le Havre. Et évidemment, la première communauté bangladaise s'est formée au Royaume-Uni. Il me semble que les ressortissants bangladais que j'ai rencontrés viennent en France parce que la France, c'est l'Europe et que l'Europe, c'est un paysage fantasmatique particulier avec un idéal de liberté politique, d'accès à un confort matériel, d'accès à la réussite sociale aussi. Et voilà, je pense que parfois, on a une lecture trop nationale et que surtout la distinction entre réfugiés et migrants économiques nous empêche de penser la complexité de ces migrations.
Il y avait au départ l'appel de l'ex-colonisateur, donc il y a eu une diaspora très importante en Grande-Bretagne, à peu près 1 million de personnes en règle, à peu près la même chose, un peu moins aux États-Unis. Des migrations qui sont là clairement des migrations économiques, d'installation, et d'ailleurs avec une population plutôt libérale, avec des professions indépendantes, etc., aux États-Unis, comme médecins, avocats, ingénieurs. Avec, en Angleterre, une implantation plus familiale, de commerce, de business. Les premières livraisons à domicile étaient pakistanaises et bangladaises. En France, c'est beaucoup plus récent. On a une immigration qui a explosé plutôt dans les années 2010. Certaines personnes quittent le pays pour des raisons politiques, parce qu'ils sont dans l'opposition, et qu'il commence à être difficile vraiment de manifester son opposition dès ces années-là. Il y a une migration énorme qui est politique, et une autre qu'on pourrait plutôt voir anthropologiquement comme une migration de tradition familiale, c'est-à-dire des familles qui ont un enfant en Australie, un autre en Europe, qui ne sont pas forcément des familles de l'élite, mais en tout cas de l'élite intellectuelle peut-être, je dirais, et des catégories sociales supérieures.
Devant nous, l'enseigne du Royal Café, en orange, là, devant nous. Et donc, le Royal Café, en fait, c'est un peu le premier commerce tenu donc, par des gens originaires du Bangladesh. Et cette première installation dans le quartier, ensuite, a entraîné l'arrivée d'autres commerçants. On est soit sur des petites cantines, alors ce sont des tout petits restaurants avec des prix très bas, des épiceries, on va en voir plusieurs. Là, on est devant une belle épicerie, il y en a plein dans le quartier. On a quelques coiffeurs pour hommes. Et les autres commerces, ce sont tous des commerces autour de la téléphonie et du transfert d'argent. Et ça nous dit quelque chose d'important en fait, c'est que cette présence bangladaise, même si il y a déjà des familles avec des enfants, il y a la présence de femmes aussi, une présence féminine, ça reste quand même encore une présence très masculine, avec des gens, je le vois et j'en croise tout le temps, assez jeunes. Et donc ces messieurs qui viennent travailler par exemple à Paris ou en région parisienne, ils ont besoin de se nourrir pas trop cher, les cantines, de se retrouver aussi pour échanger, s'entraider. Les commerces, bien sûr, épicerie, ben c'est pour venir faire quelques courses pour aller cuisiner après le soir quand on rentre du boulot. Transfert d'argent et téléphonie, c'est tout le lien qu'ils peuvent avoir avec la famille ou les membres de la famille restés au pays. Et donc, on a un quartier qui ressemble vraiment, qui reflète cette particularité. Sachant quand même qu'il y a de plus en plus de présence féminine. Il y a notamment un jeune homme que je connais qui vient de se marier. Donc là, il fait tous les papiers, toutes les démarches pour pouvoir faire venir son épouse du Bangladesh. Donc ça va amener un peu de présence féminine. Mais globalement, ce sont souvent quand même des gens jeunes. Et puis souvent, qui font les boulots, alors beaucoup de livreurs. Hein, je vois les vélos le matin qui arrivent devant les petits restaurants qui sont ouverts tôt, des gens qui travaillent dans la restauration, etc. Donc voilà, ça ne reflète pas toute la diversité de cette présence bangladaise. Elle ne se résume pas qu'à ce quartier-là, bien évidemment, mais elle est quand même le reflet, je pense, plus de l'actuelle présence bangladaise, en fait, son développement et la façon dont elle s'est développée ici à Paris.
Maintenant, je sais que c'était gardé dans le rapport, je ne savais pas. J'ai pris un bureau 500 euros et après il m'a déposé à côté Gardiner. Il m'a donné les gens qui habitent là et qui habitent déjà à Paris, donc j'ai appelé celui-là, est-ce que tu peux... Donc il a venu avec entre taxi et il a pris chez lui.
Ça a dû être difficile d'arriver ici en France après avoir vécu une vie de confort. Votre père est un homme politique.
Bien sûr, c'était difficile parce que quand vous vécu une vie, vous n'avez pas de difficultés. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Mais après, vous venez ici, vous voyez, il y a les gens qui partagent les appartements. Si vous ne parlez pas bien français, il y a des problèmes. Si vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas trouver travail. J'étais déprimé. Au début, c'était difficile, bien sûr. Je me suis adapté, j'ai appris la langue, j'ai trouvé un travail. J'ai reçu la demande d'asile, j'ai trouvé un moyen de vivre, une meilleure vie. C'est une vie difficile parce que les gens, d'abord, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens n'ont pas de papier en France. Vous n'avez pas le droit de travailler. Et autre chose, les gens ne parlent pas français. C'est difficile parce que dans notre pays, les deuxièmes langues, c'est anglais. Et tout le monde vient ici comme un bébé, qui est nouveau, donc il ne parle pas français. Pour moi, je ne dois pas supporter ma famille, donc je pourrais aller à l'école et apprendre le français. Mais les autres gens qui viennent, ils ne vont pas partir 3-4 jours à l'école, apprendre le français. Il faut qu'ils travaillent. Il n'y a pas de papier. Le même travail que je fais, je travaille 5 jours et ils gagnent moins que moi, 1,5. En plus, ils partagent la chambre 8 personnes pour les 2 chambres. On paye 1,050 avec le gaz, l'électricité. Donc la vie, c'est difficile.
Comment elle est organisée, la communauté bangladaise ici en France?
Il y a peut-être 15 ou 20 organisations en France qui aident les gens à Gare du Nord, au Béblier, Quatre Chemins, La Courneuve, à Bobigny. Mais normalement, c'est Gare du Nord, on dit en anglais Midpoint.
Donc là, on a... Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Donc là, on a une épicerie sèche, hein, tout ce qui est lentilles, émulsions, et puis surtout les épices. Voilà, il y a quand même énormément, bien sûr, de points communs entre l'Inde et le Bangladesh, notamment. Ce petit bout de rue entre la gare de l'Est et la gare du Nord, en fait, il n'y avait quasiment que des commerces moribonds. Et donc, à chaque fois qu'un commerce se fermait, un autre ouvrait, mais avec une autre histoire, et justement avec cette présence bangladaise. Maintenant, les commerces, en fait, s'installent dans les rues adjacentes et les rues perpendiculaires. Donc, par exemple, on a la rue des Deux Gares avec plusieurs pâtisseries bangladaises. La rue du Faubourg Saint-Denis, donc qui commence à la porte Saint-Denis et qui se termine donc à la chapelle, on fait quasiment le tour de tous les pays d'Asie du Sud. D'abord les Pakistanais vers la porte Saint-Denis, le passage Brady, les années 70. Ensuite, il faudrait chronologiquement remonter justement à la chapelle avec une histoire liée plutôt aux Tamouls du sud de l'Inde, venus notamment des anciens comptoirs, mais pas que, hein, français. Et puis l'arrivée dans les années 90 des Sri Lankais Tamouls avec la guerre civile. Et plus récemment, on finirait chronologiquement par cette présence bangladaise dans ce petit bout de la rue du Faubourg Saint-Denis. Donc c'est une rue qui nous raconte beaucoup d'histoires justement de l'Asie du Sud.
Vous avez parlé de pâtisserie là.
Oui, je pense que ce serait intéressant d'aller donner un petit coup d'œil dans la rue des Deux Gares. Toute petite rue qui compte quand même 4 pâtisseries. Alors il y en a une pakistanaise qui est là depuis très longtemps, mais 3 pâtisseries qui ont ouvert quasiment à quelques années d'intervalle, qui nous proposent de la pâtisserie du Bangladesh, tenue par des gens originaires du Bangladesh. Donc je crois qu'il faut aller faire un tour du côté de la rue des Deux Gares.
On a des cuisines de Bangladesh là, on a des choses qui vous pouvez trouver seulement à Gare du Nord.
Le Bangladesh vous manque ?
Oui, bien sûr, c'est mon pays maternel. J'ai beaucoup d'amis, ma mère, mon papa est déjà décédé. Ma mère là, mon petit frère là, j'ai joué au cricket, j'ai un bon sportman. Je n'avais pas l'habitude de travailler comme je travaille maintenant. Et les choses, j'avais des problèmes avec ma santé. Il n'y a personne, comme on dit, look after. Prends soin de moi si je suis tombé malade. Tout le monde manque le pays, mais on n'a pas le choix. Pour moi, je ne peux pas y aller à mon pays parce que j'ai des problèmes et je manque beaucoup mon pays. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas y aller. Et il n'y a pas de moyen que je pourrais amener ma mère, mon petit frère ici. On parle sur WhatsApp, sur FaceTime, c'est tout.
Hey, what's up? Lara dice bye.
Jodi
Je suis Kana Abani. Actuellement, je viens de terminer ma licence de droit à Panthéon Assas. Je continue. En même temps, l'identité que j'aime bien partager, c'est d'être le responsable associatif au sein de l'OFIORA. OFIORA, c'est l'association que j'ai fondée en 2012, à travers laquelle j'essaye de participer à l'intégration des ressortissants des Bangladais sur le territoire français. OFIORA, c'est l'Organisation française pour l'intégration et l'orientation des ressortissants d'Asie, plus précisément d'Asie du Sud. En vérité, ce projet avait commencé avec la communauté bangladaise, mais dès 2018, on a commencé à travailler aussi pour d'autres communautés, comme les ressortissants indiens, les ressortissants pakistanais, les ressortissants afghans. On a aussi des ressortissants philippins. Ici, nous avons un coin social. Beaucoup de gens souffrent des problèmes que nous avons aujourd'hui avec la politique d'État de tout dématérialiser. Donc, beaucoup de gens ne parlent pas français encore. Donc, nous, on s'occupe de tout cela. On a aussi des permanences juridiques gratuites. On a aussi un centre de formation où on enseigne le français aux ressortissants du Bangladesh, philippins, afghans. Et on doit être à environ 350-400 passages par jour.
Comment êtes-vous arrivé en France et pourquoi avez-vous quitté le Bangladesh ?
Beaucoup de jeunes comme moi ont pu rejoindre la France parce que soit l'un des parents était placé sous protection de l'office, et ce qui était le cas pour mon père, il était réfugié. Actuellement, il est citoyen français.
À combien estimez-vous la population bangladaise en France ?
Compte tenu des passages, on peut simplement se faire une idée. L'idée que j'ai, c'est entre 120 000 à 150 000. Je pense que là, à l'heure actuelle, depuis que le nombre de demandes d'asile a explosé à l'OFRA, on a quand même parlé pas mal de cette communauté. Voilà. Et aujourd'hui, vous savez, c'est la seconde génération de cette communauté en France. On a des jeunes qui sont en école de médecine, on a des jeunes qui sont en école d'ingénierie. Les conditions de vie des Bangladais ont vu quand même une amélioration. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle plus qu'avant, peut-être.
Comment se fait-il que les Bangladais arrivent en Europe en plus grand nombre ces dernières années?
Il y a des persécutés du fait de leur engagement politique. Il y a aussi des personnes persécutées parce qu'ils font partie des communautés connues comme minoritaires au Bangladesh. On parle aussi des persécutions pour son orientation sexuelle. Mais il y a aussi quelque chose qui augmente petit à petit. C'est aussi une immigration qui est due aussi au changement climatique.
Je dirais les premiers touchés par le changement climatique, c'est des migrations intérieures. Et c'est les plus importantes, puisqu'on peut décompter comme atteignant 14 millions en 2050, notamment suite à l'exode rural et qui va rejoindre Dakar. La deuxième vague de migration, elle va toucher surtout l'Inde. Et ça, ça date de la deuxième moitié du XXe siècle. Et ce qu'on peut observer, c'est une migration de travail qui dure de 3 à 10 ans, qui concerne énormément les pays du Golfe et les pays d'Asie du Sud-Est, là où il y a une demande de main-d'œuvre bon marché et très importante. C'était le cas pour la Coupe du Monde, c'était le cas pour ces villes champignons qui grandissent de plus en plus dans le cadre du bâtiment, également de l'aide à domicile pour les femmes. C'est une migration qui est cette fois-ci une migration temporaire parce qu'il y a un espoir de retour au pays, les remises migratoires. Pour le Bangladesh, on a atteint 7% du PIB, un chiffre réellement important. Et enfin, on a les migrations économiques vers l'Europe.
Hello, bonjour, ça va?
Come my house.
Bonjour. Bonjour madame.
Bonjour, ça va?
Oui, et vous? Merci de nous recevoir.
Voilà.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Roussafi.
Bonjour Roussafi. Tu as quel âge?
7.
7 ans,
7 ans.
Tu es en quelle classe?
CE1.
CE1. Tu as de bons résultats à l'école?
Oui.
Ouais. Comment elle s'appelle ton école?
Anatole France.
Anatole France. À la Courneuve?
Oui.
Qu'est-ce que tu apprends à l'école?
Des mathématiques, la poésie, les calculs, les nombres de 0 à 100. Écrire en lettres.
Ici, dans la famille, c'est toi qui parles français.
Oui.
Tes parents, ils ont un peu de difficultés.
Oui.
Et tu les aides parfois?
Bah quand un truc, mon père ou ma mère, il sait pas, bah je l'ai dit.
Ok. Et parfois, tu remplis des papiers ou pas?
Oui.
Oui. C'est pas trop difficile pour toi?
Non, pas trop.
Tu es né en France? Et tu es déjà allé au Bangladesh ou pas?
Non.
Non? Et parce que nous, on ne connaît pas le Bangladesh. Tu pourrais peut-être nous décrire de ce que tu en connais? C'est difficile, hein? Donc ici, là, où est-ce qu'on est?
Dans la chambre de mon tonton.
En fait, on est dans une pièce à côté de la cuisine qui, normalement, devrait être le salon. Mais pour payer le loyer moins cher, il y a ton tonton qui vit ici. Et ta chambre, elle est où?
Ma chambre, c'est là-bas.
C'est là-bas? Ok. Tu demandes à ta maman si on peut voir ta chambre.
Maman, qui a mal au dos avec tes palpes.
Ok.
Allez, oui.
Merci.
Allez,
c'est bon.
Allez-y.
Ici.
Ah, super. Donc ça, c'est... Dans la pièce, il y a une partie, c'est ta chambre, et l'autre partie de la pièce, c'est tes parents.
Mais ici, c'est ma sœur.
Ok. Vous avez des peluches. Ah, puis c'est joli, la décoration, là.
On l'a fait quand c'était l'anniversaire de ma sœur.
C'est une petite pièce avec un lit superposé d'un côté et juste à côté, un grand lit où dorment tes parents. Avec une grande télévision.
Elle marche plus.
Elle marche plus. Oh zut. Merci beaucoup.
Compréhension de l'oral. Se préparer. Activité 1.
Qu'est-ce que vous préparez?
Bangladesh, mais.
Des samoussas.
C'est quoi toi ton plat préféré?
Des samoussas et des mangues.
Et est-ce que tu aimerais aller au Bangladesh?
Oui, parce que je suis pas allée.
Mais il faut prendre l'avion, ça coûte cher.
Aussi, j'ai plein de tournées que t'as qu'à la gueule.
T'as qu'à la gueule, quoi, Bangladesh, c'est l'été. Bon, papa dit oui.
Elle a dit que c'est mon père qui va donner.
De l'argent pour prendre l'avion? Eh ben voilà. Et quand tu seras grand, qu'est-ce que tu voudrais faire?
Être un docteur.
Tu voudrais être docteur?
Pour soigner ma mère et mon père. Quand ils vont être vieux.
Ah, quand ils vont être vieux. Qu'est-ce qu'elle dit, ta maman?
Elle a dit, quand mes petits frères vont rester avec mes parents, ils vont venir après, je vais les soigner.
Est-ce que vous travaillez, madame? Vous avez un travail?
Non.
Non.
Mon père qui travaille.
Il coule.
Vous allez à l'école?
Oui, école. Mais je porte ça. Comment il coule passé?
C'est là, à côté de mon école.
Et ta maman va à l'école aussi?
Mon père aussi va à l'école.
Pour apprendre le français? D'accord.
Oui, français.
Et j'espère que tu les aides un peu. Et est-ce que tu as des copains et des copines à l'école?
Non, pas de copines, que des copains.
Que des copains.
Il y en a un qui est venu à côté de ma maison.
Comment il s'appelle?
Mamadi.
Et ton meilleur copain, c'est qui?
C'est Naël. Naël. Non, c'est Younes.
Voilà, ta maman est en train de préparer une mangue. Moi, j'adore la mangue.
Moi, j'aime trop.
Ici, le loyer, c'est pas trop cher?
Ah bon, c'est il y a qui en est d'accord ici, il y a ta qui dit pas chata.
Et t'as ici de qui? 800 €.
800 euros, ok. Oui. Oui, c'est cher quand même.
Mais là, la banque, elle marche plus. Mais on était parti au parc. Bah après, quelqu'un, il a volé le carte de ciseaux et tout. On est parti à la police.
Au commissariat de police? Parce que quelqu'un vous a volé la carte de séjour de papa?
Mais moi, je voulais courir, mais j'arrivais pas à courir parce que j'ai le pied tendu.
Tu voulais courir pour attraper le voleur? T'es courageux.
Bon, si tu me pensais, Bangladesh, il n'a pas besoin, maman, tu voulais que maman voulait vous d'accord?
Ah, elle a dit, si j'arrive pas un truc en français, c'est elle qu'elle va dire.
Quand est-ce que vous êtes arrivée en France, madame?
Quand est-ce que vous êtes arrivée en France?
2027.
2027?
17, oui.
Vous avez rejoint votre mari, en fait?
Oui.
Et vous êtes venue en avion?
Mani Plenat, ça.
Oui.
Elle a dit oui.
Et votre mari, il était venu en avion?
Vous savez?
Papa, va Plenat, c'est.
Hein?
Oui, elle a dit oui.
Okay.
C'est quand même un voyage qui coûte entre 10 000 et 15 000 euros. Donc c'est quand même des personnes qui sont relativement bien dotées financièrement, qui peuvent entreprendre l'immigration vers l'Europe. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Il y a des classes moyennes supérieures de province, des petits propriétaires terriens. Beaucoup s'autodésignent par le terme de businessman, qui englobe des situations qui vont de sociétés d'import-export au commerce de pommes de terre dans une localité. Donc on a des situations économiques et des positions sociales qui sont très différentes sous ce terme de businessman. Mais souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas de difficultés financières particulières au pays. Alors, énormément de corruption au Bangladesh, des faux procès qui leur sont intentés pour une raison ou pour une autre en fonction d'affiliation partisane, donc un environnement à la fois politique, local et économique très compliqué. Et des aspirations, je pense que c'est important aussi à la réussite sociale et à ce que l'Europe représente comme potentiel pour cette réussite sociale encore aujourd'hui.
Non, lui, démarre-toi.
C'est bon ? Ah oui. Ah bon, ça va ?
C'est pour nous tout ça ?
Oui.
Oh. Pour toi aussi, non ?
C'est gain, c'est l'électricité, le bill is big.
Le coût de l'électricité est très élevé.
Le bill est par mois 145.
Ah oui.
Maintenant, avec la chauffage, très cher. I have a restaurant work.
Je travaille dans un restaurant.
But, problem for economics. Every month I have a salary.
Mais j'ai beaucoup de problèmes financiers. Mes coûts s'élèvent à près de 3000 euros chaque mois. 800 euros de loyer, 150 d'électricité, internet, le téléphone, en tout ça fait 1200 euros pour la maison. Et puis il y a ma femme et mes enfants qui vont à l'école. Je suis souvent à découvert. Voilà à quoi se résume ma vie.
Vous avez obtenu l'asile ?
Non.
Mais vous avez une carte de séjour ?
Carte de séjour pour salarié.
En plus, je suis en formation en ce moment. Donc, je vais peut-être pouvoir obtenir la nationalité française. Mais le problème, c'est que je ne parle pas bien français.
Pourquoi vous avez décidé de quitter le Bangladesh ?
Avant, j'étais en Arabie Saoudite. Et puis, j'ai songé à venir en France parce que je travaillais pour des Libanais là-bas qui allaient souvent en France. Ils m'avaient montré une photo de la Tour Eiffel. Je m'en souviens. Je venais de terminer de faire le ménage et ma patronne m'a demandé si je connaissais. Je lui ai répondu « Oui, bien sûr, c'est la Tour Eiffel. Avant ça, je ne connaissais que l'anglais, Eiffel Tower. » Elle m'a donné l'image et m'a demandé d'en prendre soin. À partir de ce jour, je me suis dit que ce serait pas mal d'aller un jour en France dans ce beau pays. Et 6 mois plus tard, j'ai réussi à vendre mon visa saoudien. Je suis rentré chez moi au Bangladesh. J'y suis resté un peu et je suis venu ici.
Et comment vous êtes venu ici après l'Arabie Saoudite ?
Je me suis d'abord envolé pour le Danemark. J'avais obtenu un visa de businessman dans le cadre de mes activités d'import-export avec une compagnie danoise. J'y suis resté 15 jours et puis je suis venu ici. Il fallait absolument que je vienne en France. C'était mon objectif. J'ai commencé par vivre avec un ami ici. Je suis arrivé en 2009, au mois d'octobre. Je ne trouvais pas de travail, personne ne m'aidait. C'était une vie difficile. J'ai demandé l'asile. J'ai eu une allocation de 300 et quelques euros. J'ai pu louer une chambre. Il fallait que je fasse quelque chose, que j'ai une entrée d'argent.
Fleurs. Vous vendiez des fleurs.
I go metro station outside selling.
Okay.
Place d'Akishi.
Okay.
Côté
bonjour.
J'ai
fait ça pendant un an.
Vendais
Mais je vendais aussi des bouteilles d'eau aux touristes du Sacré-Cœur. Je faisais de bons bénéfices là-bas. Mais c'était très dur. Il faisait très chaud. Il y avait souvent la police.
« Moi, j'appelle ça une visibilité ambivalente parce que les patrons de ces filières sont invisibles. C'est eux, évidemment, qui décident quel vendeur, quel primeur, à quel point de vente, sachant qu'il y a des points de vente qui sont plus stratégiques que d'autres à la sortie de métro, plus ou moins fréquentés. Et ensuite, les vendeurs doivent avoir des stratégies de dissimulation, donc ils utilisent des caddies dans lesquels sont stockées des marchandises. Certains caddies sont dissimulés dans des arrière-cours à proximité des points de vente. En étant vigilant à la présence de la police et des contrôles policiers, de pouvoir fuir avec les marchandises.
Après ça, j'ai trouvé un travail dans un restaurant. Et en 2012, j'ai obtenu un CDI. Vous ? Je ne sais pas, je peux vous donner son numéro et puis vous l'appeler. Ça a été mon premier boulot et ce sera mon dernier boulot, j'espère. Il m'a beaucoup aidé, je ne l'oublierai jamais. À plusieurs reprises, il a accepté de me faire des avances sur salaire, mais je demande rarement. Je suis heureux avec lui. Là, je suis en formation pendant 6 mois et je retrouverai mon poste ensuite.
Je m'appelle Pierre, j'ai un restaurant depuis 15 ans. Il se trouve dans un quartier très touristique parisien. J'ai toujours travaillé avec beaucoup d'étrangers autour de moi. J'ai longtemps travaillé avec une chef américaine qui, pendant 8 ans, 9 ans, est restée à mes côtés et a formé Tahir, notamment, mais aussi en salle avec des ressortissants italiens, polonais, vénézuéliens. Et Tahir, je l'ai trouvé grâce à un site de petites annonces assez internationales. Tahir est un homme extrêmement gentil, souriant, extrêmement bienveillant. Il a une certaine poésie dans le regard. Il a beaucoup changé et beaucoup évolué depuis que je l'ai rencontré parce que il est avec moi depuis le début de ce restaurant, depuis 15 ans. Depuis, il a réussi à accueillir son épouse avec qui il a eu 3 enfants. Et au fil des petites fêtes de Noël, j'ai vu toute cette marmaille grandir. Et lui avec, c'est devenu un homme, un père de famille et quelqu'un sur qui on peut compter. J'ai, depuis toujours et depuis que je travaille dans ce métier, vu beaucoup de Sri Lankais et de Bangladais travailler dans les cuisines, être les petites mains dans les offices, les coulisses des restaurants. C'est pas que les cuisines, c'est aussi les économas, le travail de nuit, la réception des marchandises, le ménage des restaurants. C'est très pénible comme métier et peut-être que c'est la seule industrie qui leur offre un travail. Peut-être que ce travail n'est plus accepté par des Français.
Lorsque vous rencontrez Tahir, donc, comment ça se passe l'embauche de quelqu'un qui n'a pas forcément de papiers ?
Sur l'annonce, moi je demande toujours à ce qu'il y ait des papiers de travail valides. De toute façon, ces histoires d'immigration et ces histoires de papiers, ça se mord un peu la queue. C'est-à-dire qu'il faut un contrat pour avoir des papiers, il faut des papiers pour avoir un contrat. Il me présente des papiers. Je ne suis pas censé ignorer la loi, mais en regardant ces papiers, je vois une possibilité, une fenêtre, une fissure dans le mur et je leur offre un contrat et grâce à ce contrat, je crois qu'ils franchissent différents paliers de l'administration française pour obtenir des papiers plus valides, plus solides que ceux qui ont été présentés à la base. Donc quand je recrute quelqu'un comme Tahir, il me présente un certificat de travail, parfois seulement un permis de séjour en tant que réfugié politique ou réfugié de guerre. Ça ne lui donne pas forcément l'autorisation de travailler. Il me ment peut-être, je mens peut-être à l'administration et on passe par là. Et pour l'instant, ça fonctionne. C'est-à-dire que ces gens-là ont obtenu des papiers, ont fait venir leur famille, pas du tout grâce à moi, avant tout grâce à eux et grâce à toute cette espèce d'acharnement et de trajet, de voyage, de travail, évidemment, mais pour parfois rembourser des gens qui leur ont prêté les passeurs. Ils ont une grande pudeur par rapport à la manière dont ils sont arrivés ici et ils ne me racontent pas forcément la vie privée qu'ils ont eue avant ou le cheminement qui les a fait arriver jusqu'à moi. Et on reste sur des rapports très professionnels, peut-être en mettant quelques œillères, justement, sur ces histoires de papier, pour que ça avance, coûte que coûte. Tahir a fait le pas, il m'a annoncé au bout de 15 ans vouloir faire une formation. Alors je dis mais Tahir, tu veux faire une formation en quoi ? Je veux faire une formation en pâtisserie. C'est vrai que Tahir est devenu par la force des choses un peu notre chef pâtissier. On l'a formé à plein de pâtisseries et aussi à la confection de glaces, de sorbets. Donc c'est un bon pâtissier. Mais il voulait participer à cette formation non seulement probablement pour acquérir certaines techniques de pâtisserie, mais aussi pour parler français, je crois. Il a vraiment envie d'avancer, de se faire avancer, mais aussi avec lui faire avancer sa famille.
On va faire un petit tour chacun. Vous allez nous présenter simplement qu'est-ce que vous faites, Ibrahim.
Je suis étudiant en lycée. Je cherchais dans deux stages, commerce, vêtements.
Vous avez eu quand votre CAP?
Je suis en train de diplôme en français.
Ça fait 10 ans que j'enseigne le français, en particulier à des gens du Bangladesh. On est à l'OFIORA, organisation pour l'intégration et l'orientation des ressortissants asiatiques. On essaye de leur apprendre le français parce que c'est pas du tout ni leur langue maternelle ni la seconde langue, pour les préparer au DELF, au diplôme d'études en langue française, qui aujourd'hui est requis pour beaucoup de démarches administratives pour les migrants en France. Bon, moi, j'essaye de les former aussi à un français pratique, disons, dans leur vie de tous les jours, pour vraiment s'intégrer au sens fort du terme, quoi. Il y a de moins en moins de professeurs disponibles, sachant qu'il faut qu'ils soient tous formés à la sortie de leur demande d'asile. Voilà, lorsqu'ils sont réfugiés, lorsqu'ils ont le statut de réfugié, il faut qu'ils soient formés. Et l'Office français de l'intégration et de l'immigration ne peut pas les former tous. Donc il y en a beaucoup qui sont renvoyés en leur disant « bon, vous avez un niveau suffisant, et puis débrouillez-vous ». Donc c'est là que le milieu associatif intervient pour combler un petit peu les vides laissés par l'absence de services publics à ce niveau-là.
Je suis Khaleda, de naissance bangladeshi.
Je m'appelle Mahmouda Sultana, je suis mariée, j'ai une fille, elle est 12 ans. Je suis bangladeshi, ma famille vit au Bangladesh, j'apprends maintenant le français.
Bonjour, je m'appelle Sadi Islam Chimo, j'ai 19 ans. J'arrive ici depuis un an. Je suis étudiante, maintenant j'apprends la langue française.
Bonjour, je m'appelle Rahman, je viens de Bangladesh, j'ai 25 ans et je fais la formation de la langue française à deux. Je travaille à Paris dans la chambre de propreté et j'apprends la langue française parce que j'adore la langue française.
Je m'appelle Nath, je suis Bangladesh, j'ai marié, j'ai un garçon, j'habite à Paris.
Je m'appelle Mizanur Rahman, je suis ici, France Arrive 2016, je suis mariage, je suis 31 ans, je suis étudiant.
Bonjour, je m'appelle Ibrahim, j'habite à Bondy, je viens d'ici 2023 avec ma famille. Je fais de formation la langue de français, DELF ADO.
Alors, après ces présentations, super, très bien, c'est varié, vous dites tous et toutes quelque chose de différent sur vous, que ce soit votre âge, votre origine, votre situation maritale, matrimoniale, etc. Donc ça, c'est toutes des présentations un peu administratives, un petit peu formelles, mais on peut essayer de se présenter aussi, on va essayer de présenter dans un dialogue, avec des questions-réponses, des jeux de questions-réponses comme ça. Comme lorsque vous passerez le DELF, l'épreuve de production orale, la première partie de cette production orale, c'est vraiment une introduction avec l'examinateur, Polycock. D'accord ? Il va vous poser des questions, mais c'est surtout pour rentrer en contact avec vous, pour que vous vous sentiez plus à l'aise. Vous allez vous retrouver devant des inconnus.
J'ai encore à apprendre le français, je vais commencer mon bédo bientôt. C'est pas nickel, mais j'essaie toujours d'améliorer. Mais bédo, c'est obligatoire d'obtenir la nationalité. C'est mon prochain projet d'obtenir bédo. Maintenant, j'ai arrêté mon travail. Comme barman, j'avais un contrat CDD. Je ne peux pas continuer parce que c'est mon projet que je peux travailler dans le domaine aéroportuaire, comme agent d'escale, agent aéroportuaire. Sinon, je peux faire la formation de faire quelque chose d'administratif. J'ai un entretien avec mon agent de France Travail. On va discuter, peut-être on va trouver la formation et je commence. J'ai obtenu mon carte de séjour, ça fait 5 mois. La préfecture de Paris, elle a pris 18 mois à donner mon carte de séjour. Et à cause de ça, je ne pourrais pas faire quelque chose de meilleur comme travail. J'avais entretien avec agence pour travailler à aéroportuaire, comme Orly, Charles de Gaulle et plein de tours. J'ai été retenu, mais à cause de mon carte de séjour, je ne pourrais pas obtenir le boulon. Mes cartes, il reste encore 4 ans, donc si j'obtiens mon B2 et j'ai un boulot comme CDD ou CDI, je peux demander mon nationalité.
Même s'ils n'ont pas l'autorisation de travail, ils travaillent déclarés. Et vous savez ce qui se passe, c'est qu'ils travaillent déclarés, ils cotisent pendant des mois et des mois, parfois des années, alors qu'ils ne bénéficient d'aucun droit social derrière. Ce nombre, il est très très important. Ce nombre des personnes qui travaillent, qui cotisent pour la sécurité sociale et qui ne bénéficient d'aucune aide quand ils sont malades, parce que s'ils travaillent, ils ne peuvent pas bénéficier de la CSS ni l'aide médicale d'État. Ça veut dire qu'ils sont amenés à payer même leurs soins eux-mêmes, d'accord ? Ils ne sont pas remboursés s'ils ne vont pas au travail, parce que comme ils sont en situation irrégulière, l'assurance maladie ne leur paye rien. Donc il y a ce nombre qui est beaucoup plus important que ceux qui travaillent au BLAC, on va dire. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi. Ça aussi, ce nombre, il est considérable. Heureusement qu'il y a des voies de régularisation qui sont proposées, justement, qui leur permettent par la suite d'obtenir un titre de séjour.
Quelles sont-elles, ces voies de régularisation ? Et j'imagine qu'elles se font de plus en plus difficiles à obtenir compte tenu du contexte politique français.
En effet, si on veut parler d'une voie de régularisation qui a été fortement utilisée, il s'agit de la circulaire Valls de 2012. Cette circulaire, elle était très précise. Elle encadrait un petit peu les conditions de régularisation. Par exemple, quelqu'un qui était en France depuis plus de 3 ans et qui avait la possibilité de justifier plus de 24 mois d'activité professionnelle pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Ça se faisait. J'ai eu beaucoup de cas, les gens ils ont obtenu leur titre de séjour. Les gens qui vivaient plus de 5 ans pouvaient justifier leur activité professionnelle par le biais de la présentation de 8 fiches de paie. Quelqu'un qui vivait en France plus de 10 ans, il bénéficiait d'une carte de séjour quasi automatiquement avec cette circulaire Valls. Sauf que depuis quelques années, l'admission exceptionnelle au séjour, c'est une voie quand même très compliqué, parce que il s'agit du pouvoir discrétionnaire du préfet. Donc, l'orientation politique du préfet influençait beaucoup aussi le nombre de régularisations. Après, on ne peut pas, reprocher les préfets de faire leur travail, ce n'est pas du tout l'objectif. C'est juste que l'orientation politique des préfets ont beaucoup influencé aussi l'utilisation ou la prise en compte de cette circulaire. Sauf que depuis que Monsieur Retailleau était ministre de l'Intérieur, il a supprimé cette circulaire et il en a mis une nouvelle. Et il a donné une orientation un peu plus stricte au préfet. Et là, il faut vivre sur le territoire français plus de 7 ans pour apprécier une certaine intégration dans la société française. Et on constate aussi qu'il ne suffit pas simplement de travailler. Il ne suffit simplement pas de rester en France un certain nombre d'années, mais aussi qu'il faut s'impliquer, s'engager dans la société française et aussi justifier ses connaissances en langue française aussi, qui devient un caractère incontournable dans l'attribution des titres de séjour. Donc, tout cela durcit la voie de régularisation qui est cette voie d'admission exceptionnelle au séjour. Aujourd'hui, on parle des métiers de ces gens. Quels sont ces métiers ? C'est des aides cuisiniers. Très souvent, c'est des cuisiniers, des plongeurs. Ce sont des métiers quand même très, très difficiles à exercer. Donc, ces gens, ils exercent ces métiers parce que voilà, ils sont dans une précarité et c'est une sorte de voie de secours aussi pour ces personnes.
Aussi des métiers où il n'est pas nécessaire de pouvoir parler le français.
Voilà. Sauf que maintenant, si on ne permet pas à ces gens d'obtenir un titre de séjour, ça empire en fait leurs conditions de vie. Moi, je pense que pour ces gens-là qui cotisent, qui participent à l'économie française et qui sont indispensables pour l'économie française, c'est une certaine hypocrisie. Quelqu'un qui travaille de 9h jusqu'à 23h, d'exiger des activités sociales, de participer à des événements culturels, tout ça, voilà, c'est une forme d'hypocrisie en effet.
Quel regard l'entrepreneur que vous êtes porte-t-il sur le durcissement continuel des modalités d'obtention de titre de séjour, de titre de travail, d'obtention de la nationalité française. Est-ce que vous pourriez employer d'autres personnes que ces personnes-là qui sont dans des situations souvent kafkaïennes ?
Je n'ai jamais eu à me poser la question, en tout cas de savoir si je pourrais employer d'autres personnes, si cette communauté-là n'était pas présente pour effectuer ce travail-là. Beaucoup se présentent pour ces métiers-là. Une fois qu'on en a embauché un, il fait venir ses cousins, ses neveux et présente des solutions, finalement, aux entrepreneurs que nous sommes, rapidement. Je pense que si la communauté bangladaise ou sri-lankaise ne pouvait plus travailler en France, un problème de recrutement pourrait se poser dans les restaurants. J'ai observé toute la lourdeur administrative. Enfin, ils ont des rendez-vous... Parfois, c'est tous les trimestres, comme s'ils devaient représenter, rejustifier leur présence ici. C'est difficile pour eux de trouver des logements, évidemment. Pour certains d'entre eux, ils me l'ont raconté. Ils vivent à 3 personnes, 4 personnes, dans 15 mètres carrés. Ils font ce qu'on appelle les 3-8. Ils ont 3 lits pour, au milieu d'une cuisine, certainement. Il y a une précarité de vie et une précarité administrative, alors qu'il y a une volonté... de s'insérer. Quand ils vivent avec autant de précarité, autant de restrictions, ils viennent aussi travailler avec la peur au ventre. Ils ont peur de demander des augmentations, ils ont peur de demander des avantages sociaux en tant qu'entrepreneur. On va les payer au SMIC, par exemple. Le SMIC, aujourd'hui, 39 heures, c'est net. Tu gagnes 1650 euros net après impôt. Tu payes 50% du Navigo, tu payes une petite mutuelle... Voilà, ils envoient de l'argent au pays, envoyer du pognon à, leur, à leurs oncles, leurs enfants pour assurer une éducation. Et c'est dans cette vie-là qu'ils se construisent. C'est super dur. Moi, je, de plus en plus, alors quand je suis arrivé en tant qu'entrepreneur, j'avais 30 ans. Je n'avais pas encore beaucoup de conscience politico-sociale et de ressources humaines. Là, de plus en plus... Je pense à des barèmes en fonction d'un certain niveau de qualification où le mec va rester au SMIC pendant au moins un an. Puis après, petit à petit, des augmentations, 100 euros par 100 euros pour arriver à 2000 euros net pour les gens qui ont 4 ou 5 ans d'ancienneté. Mon chef de cuisine ici est un Bangladais, gagne 2600 euros net par mois. Il a fait venir sa femme, son fils... Jacaria, il a fait des études en marketing, je crois, et Tahir, il avait une petite boutique de payphone. En tout cas, il y a une évolution de salaire qui va avec une évolution de qualification. Il y a des patrons qui profitent, et je pense que, d'une certaine manière, évidemment que je profite, puisqu'ils sont là et qu'ils travaillent pour moi. Mais oui, si, il y a eu d'autres sortissants. J'ai embauché des Français. Mon premier chef, ici, quand j'ai ouvert, était français. Il est resté un an et demi. Comment on peut construire une relation, une identité de restaurant avec quelqu'un qui reste si peu de temps? Mais j'ai eu des gens qui ont travaillé pour moi qui n'étaient pas bangladais et sri-lankais. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Je m'appelle Shimon, j'ai 18 ans, j'arrive en France depuis 15 mois. Je venais ici avec ma maman et ma papa déjà arrive ici.
Et vous étiez heureuse de venir en France?
Oui, ma maman est femme au foyer. Mon papa envoie l'argent. Il travaille à Tour Eiffel.
Dans un restaurant de la Tour Eiffel?
Oui.
Et vous êtes déjà allé le voir à la Tour Eiffel?
Oui, je stage 20 jours, pâtisserie.
Vous avez 18 ans, Shimou. Est-ce que vous voulez faire des études?
Je finis ma lycée au Bangladesh. Quand j'arrive ici, je prends ma cours de langue niveau 1A. J'arrive ici avec visa. Je demandais pour les cartes de séjour, mais il n'est pas donné parce que je n'ai accès à notre école.
Et vous voulez faire des études?
Oui, je continue my study. I want to advocate.
Vous voulez être avocate?
Oui, c'est ma destinée.
C'est votre destinée?
C'est ça. Je veux aider tout le monde.
Et pour ça, il faut apprendre le français?
C'est un peu difficile parce que ma deuxième langue, c'est anglais.
Où est-ce que vous vivez, Shimou?
À Livin, 4 chemins.
4 chemins, donc à Aubervilliers?
Oui.
Est-ce que vous avez un bel appartement?
Non.
Est-ce que vous êtes heureuse en France, Chimou?
Oui, in our country, a person travaille un jour, 5 euros.
On gagne 5 euros par jour dans votre pays quand on travaille, ouais.
C'est pas beaucoup. Many girls pas travail.
Être une femme au Bangladesh, c'est compliqué.
Oui, c'est beaucoup compliqué. Ici, j'ai freedom. I have freedom. Quand je parle bien français, j'ai accès à l'université.
Est-ce que vous avez des amis français et françaises ici?
Il y a africain des amis, l'afghan.
Et vous arrivez à communiquer?
Il parle français et l'ami, l'afghan, hindi.
Donc vos amis sont tous originaires de l'étranger?
Oui.
Est-ce que vous avez des loisirs?
Ma passion, c'est le dessin. J'aime tricoter des vêtements. J'aime France et Bangladesh aussi. Je vis en France. C'est bien pour moi. Et j'aime Paris. À Paris, c'est tout.
হৃদয় উজাড় করে একটা জনম করে যাব তোমারই প্রার্থনা যতক্ষণ থাকবে দেহে প্রাণ তোমায় ছেড়ে কখনো দূরে যাব না নিষেধে নেই মনের ভেতর করি তোমারই আরাধনা নিষেধে নেই মনের ভেতর করি তোমারই আরাধনা
Avec Azmari Nirjar, Ahmed Rafi, Jérémy Caudron, Raphaël Gras, Sophia Meister, Rabani Khan, Roussafi, Taher, Pierre et Chimou. Lecture, Gwenda Goudvasseur. Prise de son, Manu Couturier. Mixage, Manon Houssin. Documentation musicale, Virginie Gresset. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Remerciements, Joachim
Cours.
C'était Nouvelle Diaspora de France. Bangladesh, une communauté invisible, un documentaire de Raphaël Kraft réalisé par Jean-Philippe Navarre.